Fun for you avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, soyez les bienvenus dans le podcast Fun for you. Je m'appelle Simon et toutes les semaines on se retrouve sur le site de Fun Radio, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast avec un nouvel épisode de Fun for you, votre podcast dédié à l'intime, à la santé mentale et au bien-être. Fun Radio. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Pénélope, notre psychologue qui est avec moi en studio. Salut Pénélope.
Salut Simon.
Aujourd'hui, on va s'intéresser à un concept qui est quand même assez fréquent, c'est la phobie sociale. Finalement, Pénélope, en quelques mots, qu'est-ce que c'est la phobie sociale?
Alors, on peut appeler ça aussi trouble d'anxiété sociale. Donc, on va être face à une grande peur très intense et persistante d'être jugé, critiqué, humilié quand on est dans des situations sociales ou des situations de performance. Tu vois, par exemple, parler en public, participer à une réunion, manger devant d'autres personnes, rencontrer de nouvelles personnes. On sait qu'en Belgique, dans les enquêtes de santé, on compte environ un Belge sur 10 qui souffre de troubles anxieux, dont la phobie sociale fait partie. Donc, selon une enquête de Sienzano, qui est une enquête de santé, on a à peu près 8% de la population qui souffrirait d'anxiété sociale à un moment de sa vie, avec un risque qui va être plus élevé au niveau des jeunes adultes et des femmes. Alors, c'est évidemment quelque chose qui va avoir un impact très important, puisque ça va conduire à l'isolement, à des difficultés scolaires, professionnelles, et donc un risque plus important de dépression, voire de consommation de substances. Puisque si tu consommes, t'es plus détendu et donc forcément la phobie sociale semble disparaître. Pour te donner une idée, les premières descriptions qu'on va avoir, donc la peur du regard d'autrui, c'est pas du tout quelque chose qui est nouveau. On en parle déjà au 19e siècle. Alors les médecins parlaient d'érotophobie, la peur de rougir en public. Et donc on considérait un petit peu que c'était, tu vois, la timidité maladive, et donc ça empêchait certaines personnes de participer à la vie sociale. Alors évidemment, c'est seulement au cours du 20e siècle que la phobie sociale, elle va être distinguée vraiment de la simple timidité, et c'est dans les années 60-70 que les psychiatres vont commencer à observer qu'il s'agit d'un trouble anxieux spécifique et qu'il y a des symptômes récurrents et un retentissement très important au niveau de la vie quotidienne du patient. Donc aujourd'hui, la phobie sociale, elle est vraiment reconnue comme un trouble anxieux spécifique et donc il y a une classification internationale. Il y a des livres comme le DSM-5 dont j'ai souvent parlé, qui est le livre des diagnostics des maladies psychiatriques. Et donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien étudié et qui permet d'avoir des traitements vraiment validés au niveau scientifique.
Et c'est quoi les symptômes qu'on peut retrouver quand on souffre de la phobie sociale?
Donc comme je te le disais, on n'est clairement pas juste dans de la timidité, et ça c'est quelque chose qu'on peut avoir un peu plus, un peu moins, mais normalement, là on va vraiment avoir différents symptômes physiques, émotionnels et comportementaux qui vont se présenter. Au niveau des symptômes physiques, donc lorsque la personne va être face à une situation sociale qu'elle redoute, donc par exemple devoir parler en public, on va avoir des palpitations et une accélération du rythme cardiaque. Bon, tu pourrais me dire, oui mais on a tout ça un petit peu. Évidemment, c'est pas juste un petit peu, genre j'ai un peu le trac, c'est quelque chose qui va être vraiment très intense et voire qui va empêcher la personne d'aller au bout de ce qu'elle doit faire. Les mains vont trembler, la voix vont trembler, on va avoir des rougeurs au niveau du visage, plus de transpiration, la sécheresse au niveau de la bouche, la gorge nouée. Bon, de nouveau, c'est des symptômes qu'on connaît dans d'autres contextes, mais ici, qui sont vraiment à l'extrême. Une sensation de vertige, éventuellement un malaise qui pourrait se présenter, et puis ça peut monter vraiment jusqu'à la crise de panique. Les symptômes au niveau psychologique et émotionnel, c'est des peurs excessives au niveau du jugement, de l'humiliation, le risque de faire une erreur qui devient quelque chose de catastrophique. Il y a évidemment alors une anticipation anxieuse qui va se faire, donc plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant un événement social, la personne est déjà dans l'inquiétude. On va évidemment avoir un sentiment d'infériorité, on est moins bon, moins compétent, moins intéressant qu'une autre personne. Il y a de l'hypervigilance aussi, l'impression que tout le monde nous regarde et que tous les regards sont focalisés sur nous. Au niveau des symptômes comportementaux, là on va être face à de l'évitement, on va refuser d'aller à une fête, refuser d'intervenir dans une réunion, on va pas prendre la parole en classe quand on est enfant. peut avoir carrément de la fuite. Hein. Là, à ce moment-là, on est dans la situation sociale et on disparaît sans rien dire à personne parce que l'anxiété qui est générée devient trop importante. Et donc, on est face à de l'isolement progressif. On réduit son cercle social de plus en plus. On se replie sur soi. Alors, on va compenser éventuellement avec de la consommation d'alcool, la consommation de médicaments pour tenir dans le cadre de ces situations sociales. Alors, on a différentes formes de phobie sociale. On a la forme spécifique. C'est vraiment la peur qui se limite à une situation. Par exemple, parler en public. Et puis, on a la forme généralisée. Là, on est vraiment par rapport à la peur qui concerne toutes les interactions sociales, que ce soit rencontrer des gens, aller au magasin, acheter une pomme, manger en public, discuter avec des supérieurs, par exemple. Alors évidemment, il y a des conséquences à cette phobie sociale. Les conséquences vont se représenter au niveau de la santé, au niveau de la vie personnelle, au niveau de la vie scolaire et professionnelle et aussi au niveau de la société. Au niveau de la santé, on sait que ça risque d'augmenter les dépressions. Donc on sait qu'on a à peu près 40% des cas de phobie sociale qui vont évoluer vers une dépression. Comme je le disais, risque d'addiction élevé, particulièrement au niveau de l'alcool et des anxiolytiques, donc les médicaments qui vont détendre l'anxiété, mais qui sont très addictifs. On a des troubles du sommeil, de la fatigue chronique qui va être évidemment liée à l'anxiété. Au niveau de la vie personnelle, on a de l'isolement, une solitude qui va être souvent affective. On va avoir des difficultés à évidemment nouer et maintenir des relations amoureuses et on a une baisse d'estime de soi qui est très importante. Au niveau scolaire et professionnel, souvent on va avoir des étudiants qui abandonnent les études, qui sont en échec scolaire parce que par exemple si tu as un exposé à présenter devant la classe, bah tu vas pas aller le faire. Ne parlons pas des examens oraux et des interactions qu'on devrait avoir avec les professeurs. Au niveau du choix de carrière, du coup, ça devient plus limité aussi puisqu'on va aller vers des métiers qui évitent les contacts. Et puis il y a une difficulté qui va se présenter au niveau de l'intégration professionnelle. On va par exemple refuser des promotions puisqu'il faudra évidemment à un moment ou un autre prendre la parole devant son équipe par exemple. Au niveau de la société, bah, du coup on perd aussi au niveau du potentiel professionnel parce que c'est des gens qui sont tout à fait capables de faire différents métiers, ouais. Mais qui vont quand même choisir des métiers peut-être qui se limitent un petit peu plus pour éviter toutes ces situations dont on parlait. Et donc vraiment des personnes compétentes qui renoncent à des carrières qui auraient pu être brillantes. Et puis il y a un coût socio-économique évidemment puisque là aussi on peut avoir des arrêts de travail, des soins, des reconversions et tout ça, ça coûte de l'argent à la société.
Et comment on fait pour reconnaître la phobie sociale? Est-ce qu'il y a des petits signaux d'alerte qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille?
Alors évidemment, si tu vois que par exemple tu as une peur disproportionnée de parler devant les autres, c'est un signe. Quand l'anxiété va se présenter plusieurs jours avant une réunion, un rendez-vous, une sortie, c'est aussi un signe. Quand on a même des symptômes physiques directement, quand on est observé, c'est aussi un signe. On va avoir aussi toutes les stratégies d'évitement qu'on met en place. On dit, tiens, je vais chaque fois prétexter quelque chose pour pas sortir, refuser systématiquement les invitations. Et puis, l'impression qu'il y a une anxiété comme ça qui nous gâche la vie. Ça, c'est les signaux qu'on peut avoir chez soi. Au niveau de nos amis, de nos collègues, si on repère quelqu'un qui refuse, par exemple, de prendre la parole, peu importe les circonstances, ça, c'est un signe. Donc, les absences, particulièrement dans les moments sociaux. Donc, par exemple, il y a des réunions et comme par hasard, systématiquement, cette personne n'est pas là. Quand il y a une fête, ce genre de choses.
Toujours se trouver des excuses, en fait.
Ben alors, se trouver des excuses, ce serait plus « Oh, j'ai pas envie parce que j'ai envie d'aller à une autre fête ». Là, on serait dans « j'ai trouvé une excuse ». Ici, c'est des gens qui sont incapables de venir. Hein? C'est vraiment l'effort que ça va générer est tellement important qu'en fait, on préfère ne pas y aller. Le coût devient beaucoup trop cher pour pouvoir le faire. Donc pour moi, c'est pas trouver des excuses, c'est vraiment cette incapacité qu'on va avoir. Et là, si aussi tu as des gens qui te disent « mais je panique, si je dois parler à quelqu'un », alors on parle pas, du grand boss, tu vois, ton N+18.
Oui, parce que c'est normal de stresser, on est d'accord, dans certaines situations. Hein?
Oui, alors c'est toujours évidemment des éléments, c'est ça qui est difficile finalement avec ce type de pathologie, c'est que c'est des éléments que tu peux retrouver dans ton quotidien. Mais ici, on est toujours dans une intensité qui est plus importante que la norme, exactement, et qui vont arriver à du handicap dans ton quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des choses élémentaires que tu ne vas plus faire. Alors que d'habitude, tu vas stresser un peu, mais tu vas le faire quand même. Même si t'es un peu stressé. Ici, c'est des gens qui n'arrivent plus à le faire. Il faut différencier évidemment aussi avec d'autres choses. Donc, je parlais tout à l'heure de la timidité que tu peux avoir. Ben oui, cette timidité, elle est normale. On peut avoir une petite gêne. Mais en général, plus on vieillit, alors ça peut être, tu sais, bêtement, rentrer dans un café ou dans un restaurant le premier. Ça, quand on est plus jeune, ça peut être plus difficile. Avec l'expérience, on dit, bon, de toute façon, on s'en fout, personne ne nous regarde. Hein. On croit que tout le monde nous regarde, mais en fait, non. Et donc, quand on est dans la phobie sociale, il y a vraiment cette souffrance qui va être importante.
Alors, c'est impossible.
Voilà, dans la timidité normale, à un moment ou un autre, on passe au-dessus.
Mais je suis en train de me dire que la société dans laquelle on est en train d'évoluer est peut-être un peu mieux faite pour tous ces gens-là, parce qu'avant, il fallait prendre le téléphone pour réserver le restaurant, par exemple. Aujourd'hui, tu sais directement le faire en ligne. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire en ligne. Tu peux même, t'es plus obligé d'aller faire tes courses, par exemple. Tu peux tout acheter en ligne. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je me dis, pour ces profils de gens, c'est quand même quelque chose... enfin, les choses sont bien faites, quoi.
Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Oui, c'est bien fait, mais ça les plonge de plus en plus dans leurs troubles, évidemment. Ben, si, ce qui va se passer si on fait une thérapie, c'est qu'on va te forcer quand même, alors à des doses acceptables, te forcer à aller te confronter aux situations qui te mettent en difficulté. Donc, comme aujourd'hui, comme tu dis, on peut tout faire derrière un écran, en fait, il n'y a plus du tout de contacts sociaux, et donc ça accentue encore la problématique de la difficulté sociale.
C'est pas faux, parce que j'ai vu une étude aussi récemment qui expliquait que 40% des jeunes, c'est 12-25 ans, je pense, les jeunes dans cette étude, avaient peur de prendre leur téléphone pour passer un coup de fil, etc. Et c'est peut-être aussi tous ces trucs qui permettent d'éviter de passer un coup de téléphone qui font qu'aujourd'hui, on est habitué à ne plus le faire. Et quand on doit le faire, c'est un peu un problème.
Oui, complètement. Là, je te rejoins complètement. Je pense que c'est une habitude. Si tu fais quelque chose 5, 10, 20 fois, 30 fois, la 40e fois, tu le fais sans y penser. Alors que si tu ne le fais jamais, bah oui, prendre ton téléphone pour passer un coup de fil, pour demander un rendez-vous à ton dermato, ça paraît une montagne, alors que c'est d'une banalité très importante, tu vois.
Est-ce qu'il existe des soins ou des traitements pour passer au-dessus de cette phobie sociale?
Alors, tout à fait. C'est quand même un des troubles anxieux qui est finalement le mieux traité par rapport aux techniques qu'on va avoir actuellement. Donc, ben, c'est le suivi psychologique qui va être important, et particulièrement les thérapies dites cognitivo-comportementales. Donc, c'est vraiment des thérapies qui agissent sur le comportement, et donc ils vont faire en sorte que tu changes progressivement tes habitudes. Donc, c'est en général ce qu'on va utiliser en premier lieu. On va faire des exercices progressifs d'exposition. Donc, on va te montrer les situations qui te rendent anxieux régulièrement.
Exemple tout con, j'ai peur des araignées. Tu vas me montrer des araignées jusqu'au jour où j'arriverai à peut-être prendre une araignée dans ma main. C'est ça l'idée?
Alors, c'est ça l'idée. Évidemment, là, dans un autre type de phobie. Mais donc, d'abord, on va te montrer une araignée en photo ou en jouet. Puis, tu vas devoir toucher la photo, toucher le jouet. Puis, à un moment, on va te montrer une araignée morte, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on augmente progressivement l'exposition et le risque d'exposition, puisque la personne le vit comme un risque. Et puis, on va aussi tenter de restructurer les pensées anxieuses, te faire comprendre que ça n'a pas de sens d'être anxieux dans ce genre de situation. Je simplifie assez fort. Il y a éventuellement aussi des thérapies de groupe qui existent, hein, qui permettent d'expérimenter des situations sociales, mais alors dans un cadre qui est plus sécurisant, puisqu'en général, forcément, on est avec des gens qui sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. Et puis, on peut ajouter à ça différents outils comme la pleine conscience, par exemple, l'hypnose, ça marche pas mal, qui vont aider dans les moments où l'anxiété va monter, vont aider à remettre quelque chose de plus tolérable dans notre gestion émotionnelle. On peut évidemment avoir un soutien au niveau médical, par exemple, avoir des prescriptions pour des antidépresseurs ou des anxiolytiques. C'est ce qui va être en général utilisé, mais dans des phobies sociales, ils sont extrêmement sévères. Donc, si ça reste relativement léger, on évite en général les prescriptions de médicaments. On peut évidemment avoir un accompagnement qui va se faire, par exemple, avec des ateliers de prise de parole, du coaching pour renforcer l'affirmation de soi, voilà, des espaces aussi associatifs qui permettraient de reprendre confiance en soi. Alors, l'idéal, évidemment, c'est de prévenir la phobie sociale. Donc, on peut déjà faire une prévention au niveau individuel, c'est faire en sorte, quand on a des enfants, de développer l'estime de soi dès que l'enfant est très jeune. Plus on a confiance en soi, moins la phobie sociale risquera d'arriver. Et donc, par exemple, d'encourager les enfants à s'exprimer en public, de manière progressive, voilà, pour pouvoir tester aussi qu'il ne se passe pas grand-chose quand on s'adresse à un public. Et puis, il y a toutes les techniques de gestion du stress, respiration, relaxation, qui peuvent aider. Au niveau de la prévention scolaire et professionnelle, Je pense que ce serait important de sensibiliser aussi éventuellement les enseignants à la phobie sociale, puisse comprendre que chez certains élèves, en fait, c'est vraiment très compliqué de prendre la parole. Ça peut être aussi plus interprété comme « je n'ai pas envie de prendre la parole ». En fait, c'est vraiment « je ne sais pas prendre la parole ». Et donc, on peut aménager aussi des modalités d'évaluation différentes, éviter d'aller direct à l'oral et peut-être préférer l'écrit et progressivement de pouvoir amener l'enfant à aller vers des examens oraux. Et au niveau du climat professionnel, en général, ce serait plutôt de valoriser tout ce qui va être compétences plutôt que de valoriser ce qui est performance oratoire, donc le fait de parler en public.
Alors, on en parlait tout à l'heure, la phobie sociale, elle touche, si je ne me trompe pas, 8% de la population, si je me rappelle bien de ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres chiffres par rapport à ça, Pénélope ?
Alors, j'ai d'autres chiffres pour donner une idée. Donc, comme tu disais, 8% pour l'anxiété sociale, donc c'est une enquête belge, qui date de 2018. Au niveau des troubles anxieux, là, donc de manière plus générale, on est à peu près à 10%. Et on sait que chez les femmes, c'est plus élevé que chez les hommes. On compte que c'est 1,5 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Au niveau des jeunes adultes, donc on compte les 18-29 ans, là on est quand même à peu près à 12%. Et on fait des liens aussi avec le risque de dépression, ça je le disais déjà tout à l'heure, chez les personnes qui ont des phobies sociales. Et donc c'est 2 à 3 fois plus élevé que quelqu'un qui n'a pas de phobie sociale. Je disais 40% des phobies sociales risquent de dégénérer en dépression. Et on voit que le recours finalement aux soins spécialisés dans ce cadre-là reste malgré tout encore faible. On n'a que 30% des cas de phobie sociale qui vont aller consulter pour leurs troubles.
Comment on pourrait conclure cette discussion, Pénélope ?
Et donc, je vais peut-être un peu me répéter, mais je pense que c'est important de pousser un petit peu sur le bouton. La phobie sociale, on est bien d'accord que c'est plus que de la simple timidité. C'est vraiment un trouble anxieux qui va être extrêmement fréquent, qui va être invalidant et qui va vraiment empêcher beaucoup de personnes de mener une vie scolaire, sociale, professionnelle de manière épanouie. Donc, elle va se manifester de différentes formes, sous différentes formes, les symptômes physiques, les symptômes émotionnels et comportementaux. Et donc, tout ça va entraîner un évitement et un isolement plus important. Les conséquences, évidemment, vont être extrêmement lourdes. Il va y avoir une grande souffrance au niveau personnel. On va perdre des opportunités. On va risquer une dépression. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en faire quelque chose. On n'est pas obligé de rester avec cette phobie sociale qui se soigne finalement relativement bien. Donc, je parlais des thérapies cognitivo-comportementales et des prises en charge qui sont vraiment adaptées, qui vont permettre finalement de retrouver de la confiance et du coup une liberté au niveau des relations sociales. Donc, reconnaître finalement la phobie sociale, c'est il faut oser en parler. Alors, c'est un peu difficile, évidemment, dans la phobie sociale, mais il faut oser en parler, il faut oser demander de l'aide. C'est pas un signe de faiblesse non plus, Les maladies psychiatriques sont souvent, comme ça, un peu connotées négativement, mais c'est pas un signe de faiblesse. Et faire le premier pas, finalement, c'est aller vers une reconstruction et vers un épanouissement.
Eh ben merci beaucoup Pénélope, on a une nouvelle fois, comme toujours avec toi, appris plein de choses sur la phobie sociale. On va se retrouver très très vite dans un nouvel épisode de Fun for You, on va encore aborder plein de sujets. Merci en tout cas à toi Pénélope et puis à très vite.
C'était avec plaisir en tout cas Simon et à très vite.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.